Manuel Valls questionné à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'échec du conclave de Deva. Le ministre des Outre-mer réaffirme ses opinions et affirme que le dialogue va se poursuivre dans les semaines qui viennent. Dernier jour du procès des emplois fictifs à la province sud pour lesquels comparaissent 5 cadres de Calédonie Ensemble. La matinée a été consacrée aux réquisitions du ministère public qui a notamment demandé des peines d'inéligibilité. La Fédé explique son refus de signer l'accord cadre issu du séminaire social et fiscal. Les salariés et les consommateurs ne sont, selon la Fédé, pas assez pris en compte. En métropole, François Bayrou se défend devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire. Le Premier ministre réaffirme qu'il n'était pas au courant de soupçons d'agression et violences sexuelles dans un établissement scolaire du Béarn. Et puis dans la page sport, la suite du Giro, le Danois Mads Pedersen remporte la 5e étape du Tour d'Italie. C'est déjà sa 3e victoire d'étape. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les partenaires sociaux et le gouvernement ont signé en début de semaine un accord cadre issu des discussions menées lors du séminaire social et fiscal. Que contient cet accord? Comment va-t-il se décliner et selon quel calendrier? Ce sera le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dès la fin de cette édition. Nous recevrons pour en parler le membre du gouvernement en charge du secteur, Christopher Gigès, le secrétaire général adjoint de l'USOINC, Alexis Falé-Matagia, et le vice-président du MEDEF, Bertrand Courte. Rendez-vous pour les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dès la fin de ce journal. Une semaine après l'échec des discussions sur l'avenir institutionnel, le ministre des Outre-mer, de retour à Paris, a été rattrapé par le dossier calédonien. Manuel Valls s'est retrouvé sur la sellette lors des séances des questions au gouvernement, d'abord à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, Elisabeth Noir.
La proposition d'indépendance association posée par Manuel Valls la semaine dernière suscite des réactions, des interrogations et des inquiétudes, tant chez les députés que chez les sénateurs. À l'Assemblée nationale, c'est la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui a fait un parallèle entre la situation de Mayotte et celle de la Nouvelle-Calédonie, et elle a reproché au ministre des Outre-mer d'avoir proposé aux Calédoniens une indépendance déguisée.
Vous revenez de négociations en Nouvelle-Calédonie où vous avez mis sur la table une proposition d'indépendance association, c'est-à-dire un transfert des compétences régaliennes, l'instauration d'une double nationalité de droit et néo-calédonienne avec un statut internationalement reconnu. Votre démarche nous alarme et nous interroge bien au-delà de la Nouvelle-Calédonie. À Mayotte, comme en Polynésie et ailleurs en Outre-mer, votre proposition d'indépendance aux Calédoniens qui ont dit non, votre proposition sonne comme une alerte rouge. Les Calédoniens ont exprimé clairement par 3 référendums successifs, leur attachement indéfectible à la République. Malgré ces votes, vous avez choisi d'offrir une indépendance déguisée. Vous avez choisi de céder aux violences et de vider les votes de toute substance.
Une interpellation qui a agacé Manuel Valls, et le ministre des Outre-mer a rappelé sa position et sa proposition d'un partenariat entre la France et la Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie a une trajectoire singulière. Son histoire est celle d'une colonisation de peuplement et pénitentiaire brutal. Il y a un peuple premier, les Kanaks, qui a connu la ségrégation. Elle est inscrite sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. 3 référendums, vous avez raison, ont refusé l'indépendance, même si le troisième a laissé un sentiment d'inachevé. Mais cela ne signifie pas la fin du processus de décolonisation et d'autodétermination qui est incontournable si l'on veut la stabilité et la paix. Les accords de Matignon et de Nouméa cherchent à concilier la recherche d'un lien fort avec la France et l'aspiration à la souveraineté. C'est mon choix, c'est notre choix, un partenariat solide et durable avec la France, et j'ai toujours bon espoir qu'on y arrive et les discussions continuent. Moi, ce que je veux, Madame la députée, c'est la paix civile en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et ce qu'on puisse trouver, oui, l'accord et le chemin commun qui étaient inscrits dans les accords de Nouméa.
Mais cette réponse n'a pas satisfait la députée de Mayotte et elle a vertement répondu à son tour au ministre des Outre-mer.
Monsieur le ministre, ce que vous venez de dire est gravissime. Vous venez, malgré les 3 votes contre l'indépendance, de maintenir ici, devant la représentation nationale, que vous la mettez sur la table. Vous savez parfaitement que la décolonisation ne signifie pas l'indépendance automatique. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelle que soit la position de la majorité en Nouvelle-Calédonie, vous allez imposer l'indépendance. C'est grave.
Manuel Valls n'en avait pas fini pour autant avec la Nouvelle-Calédonie. Le député des Bouches-du-Rhône, Olivier Fessa, du groupe Union pour la droite républicaine, s'est adressé, lui, au Premier ministre en mettant directement en cause l'attitude du ministre des Outre-mer.
Le dossier calédonien est traité avec un amateurisme mettant en danger l'unité de la nation. Alors que 3 référendums ont rejeté l'indépendance, les initiatives de votre ministre traduisent un contournement de la volonté populaire. Son projet d'indépendance-association, sans soutien de l'Élysée ni mandat démocratique, remet en cause l'intégrité de notre territoire. Ce n'est plus possible, la situation exige un cap clair.
Question adressée au Premier ministre, mais c'est Manuel Valls qui a répondu en affirmant qu'il faut avant tout aboutir au processus de décolonisation et permettre l'exercice du droit à l'autodétermination.
Il n'y aura pas de solution en Nouvelle-Calédonie les uns contre les autres. Vous savez, j'ai la mémoire, je me rappelle des propos définitifs qui ressemblent un peu aux vôtres de Bernard Ponce en 1987, après un référendum qui avait donné 98% en faveur du oui. Quelques mois après, il y avait Ouvéa, quelques semaines après, il y avait les accords de Matignon et de Nouméa. Donc pas de mots définitifs, trouvons la voie du dialogue pour le chemin ensemble et n'utilisons pas, n'instrumentalisons pas la Nouvelle-Calédonie ici à des fins de politique intérieure.
Le ministre des Outre-mer sur la défensive, un peu irrité, mais il a de nouveau dû batailler au Sénat une heure plus tard, lors de la séance des questions au gouvernement. Là encore, il a été interpellé très vivement sur sa proposition d'indépendance association par le sénateur socialiste du Val-d'Oise, Rachid Temal.
Monsieur le ministre, le 30 avril dernier, vous indiquiez que c'était l'accord ou le chaos. D'accord, il n'y a pas eu. Alors, monsieur le ministre, j'ai 2 questions. La première, c'est quels étaient vos objectifs avec votre proposition d'État associé? Je crois que c'est important de le dire devant la représentation nationale. Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que l'exécutif, le président de la République, le Premier ministre et vous-même, le gouvernement, avaient des propositions concrètes pour sortir de la crise? Puisque, je le redis, encore une fois, je crois que nos concitoyens ne peuvent pas attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour sortir de cette crise qui, aujourd'hui, met à mal la population de la Nouvelle-Calédonie.
Décolonisation et droit à l'autodétermination des Kanaks comme condition de la paix. C'est la réponse de Manuel Valls qui n'assume pas l'indépendance association.
Tant que nous n'aurons pas réglé la fin du processus de décolonisation et l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple Kanak, nous n'aurons pas les conditions du dialogue et de la paix civile. Nous avons proposé, et j'ai proposé, une voie, sans prononcer d'ailleurs de formule particulière, qui concilie l'aspiration d'un maintien d'un lien fort avec la France et l'achèvement du processus de décolonisation. Ce dialogue va se poursuivre. C'est ça qui est l'essentiel avec l'État et entre les partenaires politiques.
Et c'est le sénateur calédonien Georges Naturel qui, à son tour, a interpellé le ministre des Outre-mer avec des questions très précises.
À l'heure où le silence succède à l'échec, quelle suite concrète le gouvernement entend-il donner au processus de négociation? Ensuite, à quelle date entendez-vous fixer les prochaines élections provinciales, reportées à 2 fois, reprises dans des conditions exceptionnelles, mais désormais attendues comme un repère démocratique indispensable? Enfin, le gouvernement envisage-t-il de déposer préalablement à ce scrutin un projet de loi organique permettant d'ouvrir partiellement le corps électoral provincial, notamment à tous les natifs de Nouvelle-Calédonie et aux petits-enfants des citoyens calédoniens afin de rendre plus démocratiques les prochaines élections provinciales?
Et dans sa réponse, Manuel Valls a confirmé qu'il n'y aurait pas de nouveau report des élections provinciales, mais il ne fixe pas de date et il réaffirme que pour lui, un accord est indispensable.
Un nouveau report des élections apparaît en effet, en l'absence d'accord, difficile politiquement et juridiquement. Mais, j'ai bon espoir que les discussions se poursuivent. Car j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut un accord. L'accord est indispensable. C'est incontournable si l'on veut la stabilité et la paix. Ainsi, je ne veux pas m'avancer tout de suite, ni sur une date d'organisation des élections, ni sur la question du corps électoral. Je considère que nous avons encore un peu de temps pour permettre le rapprochement des points de vue. Mais je veux dire clairement les choses. Comme on ne peut pas faire un référendum sans les Kanaks, on ne peut pas faire une réforme du corps électoral contre les Kanaks.
Voilà pour ces échanges sans concession entre Manuel Valls et les parlementaires, une semaine après l'échec de Deva. Le ministre des Outre-mer qui a dû ferrailler dans les 2 hémicycles, mais qui ne bouge pas d'un iota et qui, sans la nommer, assume sa proposition d'indépendance d'association.
L'actualité judiciaire pour poursuivre ce journal avec ce long réquisitoire ce matin au tribunal correctionnel. Le procureur de la République Yves Dupas et la vice-procureure Fanny Philibert ont détaillé point par point les raisons pour lesquelles ils estiment que le tribunal devra entrer en voie de condamnation à l'encontre de 5 cadres de Calédonie Ensemble. Ils sont jugés, je vous le rappelle, depuis lundi pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois présumés fictifs des collaborateurs wallisiens et futuniens. Une audience et des réquisitions que vous avez suivies pour Radio Rythme Bleu, Nicolas Legrand.
Oui, vous l'avez dit, Jean-François, un réquisitoire long, plus de 3 heures et extrêmement détaillé. pour démontrer, selon les mots du procureur de la République, le système d'emploi fictif mis en place par Calédonie Ensemble depuis des années. Un véritable manquement majeur à la probité, une entorse inacceptable à l'exemplarité des élus. C'est même une atteinte au fonctionnement démocratique, lancera le procureur. Dans ses réquisitions, Yves Dupas a estimé que Philippe Gomès et les élus de Calédonie Ensemble ne pouvaient pas ignorer le cadre légal de l'embauche des collaborateurs. Ça ne peut donc pas être, selon lui, une erreur de droit. L'erreur de droit est une appréciation erronée d'une règle de droit conduisant un individu à croire à tort qu'il pouvait légitimement accomplir un acte. Et si elle est prouvée, l'erreur de droit constitue une cause d'irresponsabilité pénale. C'était d'ailleurs la ligne de défense de Philippe Gomès lors de cette audience, qui nie les faits reprochés en déclarant que la délibération sans CP qui encadre les embauches des collaborateurs aurait dû être réformée et que selon lui, elle permettait le recrutement de collaborateurs en donnant une large latitude aux différents groupes politiques. Yves Dupas, lui, affirme avec force que ces 44 emplois au cœur du dossier étaient fictifs, car aucune preuve d'un quelconque travail n'a été fournie, hormis quelques PV de réunion. Le procureur pointe également du doigt le mode de recrutement et le profil, je cite, « plus que troublant des collaborateurs qui sont exclusivement des coutumiers wallisiens et coutouniens. Il estime que leur âge ou encore leur qualité personnelle ne leur permettent pourtant pas d'assister les élus dans leur mission. Il déclare d'ailleurs que ces collaborateurs faisaient ce qu'ils voulaient, n'étaient pas assidus aux réunions. Le laboratoire politique de Philippe Gomès, dans lequel il mélange la coutume et la politique, crée un véritable cocktail explosif, lâche Yves Dupas. Pour lui, on faisait n'importe quoi en distribuant des rémunérations en fonction de la hiérarchie coutumière sur des postes qui ont été émiettés. En clair, on répartit l'argent entre les districts et les différentes familles. Chez Calédonie Ensemble, on rémunère les coutumiers pour faire de la propagande sans contrepartie de travail. C'est un système clientéliste mis en place par Philippe Gomès, affirmera le procureur. Le ministère public distingue en fait trois types de collaborateurs. D'abord, les responsables coutumiers, wallisiens et coutouniens, qui n'ont rempli, selon l'accusation, aucun travail pour la collectivité. Il y a aussi les femmes ou veuves de coutumiers. Certaines touchaient par exemple la rémunération car leur conjoint était encore en activité et ne pouvait pas être collaborateur. L'une ayant déclaré par exemple être rémunérée en tant que collaboratrice alors que son travail était de faire la vaisselle lors des réunions. Et enfin, un collaborateur mort qui a reçu son indemnité durant 3 mois après son décès. Un collaborateur du groupe peut mourir sans que personne à Calédonie Ensemble, aucun élu ne le remarque. C'est ce qu'a lancé la vice-procureure, ce qui viendrait donc appuyer les accusations d'emploi fictif. Dans leur réquisition, le procureur de la République et la vice-procureure sont également revenus sur les intitulés des postes des collaborateurs qui n'avaient aucun lien avec les missions données. La nature du poste comme assistant ou secrétaire de direction, par exemple, n'était donnée que pour justifier un niveau de rémunération en fonction de la grille indiciaire. Ensuite, le procureur et sa vice-procureure ont passé en revue le rôle des 5 prévenus pour étayer leurs accusations et caractériser les infractions reprochées point par point. Et il demande ensuite la plus grande fermeté au tribunal dans sa décision. Concernant d'abord Marie-Christine Jay, collaboratrice de la province Sud, elle se présente comme une exécutante. Elle est poursuivie d'ailleurs pour complicité dans l'affaire de ses emplois fictifs. Le ministère public requiert 18 mois de prison avec sursis, une amende de 300 000 francs, mais aussi 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Quant à Sutita Siolagadec, membre fondatrice de Calédonie Ensemble, elle est poursuivie pour complicité et recel de détournement de fonds publics. 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, avec un aménagement pour la partie ferme, sont requis. 500 000 francs d'amende. Et là aussi, et ce sera le cas pour les 5 prévenus, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Quant à Siou Mouliakaaka, ancien élu qui a participé à dénoncer ce dossier, il est poursuivi lui aussi pour complicité de détournement de fonds publics. 18 mois de prison avec sursis sont requis, ainsi qu'une amende de 500 000 francs avec sursis. Et là aussi, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Martine Lagneau, elle est poursuivie pour 12 arrêtés qu'elle a signés concernant ses embauches de collaborateurs. Il est requis 18 mois de prison avec sursis, une amende de 500 000 francs, 5 ans d'inéligibilité, je me répète, avec exécution provisoire. Venons-en maintenant au cas de Philippe Michel. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics pour 24 contrats, des arrêtés qui étaient signés alors qu'il était président de la province Sud. Le ministère public requiert 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et un aménagement sous forme de bracelet électronique pour la partie ferme, une amende de 4 millions de francs et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Enfin, concernant les personnes physiques, Philippe Gomès est poursuivi pour détournement de fonds publics pour 3 contrats de collaborateurs qui lui étaient directement rattachés au Congrès. Concernant les autres contrats cités dans la procédure, il apparaît selon Yves Dupas que Philippe Gomès était un donneur d'ordre pour le recrutement de ses collaborateurs. Il requiert donc une requalification en complicité par instigation. Le procureur requiert à son encontre 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et il demande un aménagement sous forme de détention à domicile avec bracelet électronique pour les 2 enfermes, 5 millions de francs d'amende, et là aussi, à l'encontre de Philippe Gomès, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Car pour le procureur de la République, l'exécution provisoire est particulièrement adaptée concernant l'inéligibilité dans ce type de dossier. Enfin, à l'encontre de Calédonie Ensemble, le procureur estime que le parti a bénéficié du profit d'infraction au préjudice de 2 collectivités, la province sud d'un côté et le congrès de l'autre. Le parti n'ayant pas les moyens financiers de recruter des employés pour faire de la propagande, avec un montant de facture totale sur la période de prévention de 116 millions de francs, il requiert 20 millions de francs d'amende à l'encontre du parti. Philippe Gomès a participé à l'ensemble du procès, prenant des notes, hochant la tête régulièrement pour contester les propos du ministère public. Cet après-midi, la parole sera à ses avocats. Au tribunal de Nouméa, Nicolas Legrand, RRB.
Merci beaucoup Nicolas, un procès que l'on continuera évidemment de suivre et compte-rendu ce soir dans le journal de 17h45. L'actualité judiciaire, c'est aussi la suite de la 2e session d'assises de l'année. Aujourd'hui et demain, l'homme qui comparaît est accusé d'assassinat. Le 27 décembre 2020, à Calagomène, il a tiré à bout portant avec un fusil sur un jeune homme. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la réponse à la question d'hier. 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent suivre avec intérêt le procès des emplois fictifs. Ils sont 9% à dire que cela ne les intéresse pas. Notre question du jour, les conducteurs de Tanéo ont-ils raison, selon vous, de débrayer pour protester contre les caillassages dont ils sont la cible? Si vous pensez qu'ils ont raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Au chapitre des faits divers, notez cet incendie d'une maison en Rivière-Salée ce matin. Il s'agit d'un incendie accidentel qui s'est déclaré au premier étage d'une maison mitoyenne. Les pompiers ont pu éteindre le feu, mais les dégâts sont importants et les 2 familles de ces maisons mitoyennes devront être relogées. Et puis un an, jour pour jour, après l'assassinat du gendarme Molinari à la coulée, l'association Citoyens Mondorien va déposer une gerbe au pied de la stèle qui lui rend hommage à la gendarmerie de Ploumes. Dépôt de gerbe prévu vers 13h30. L'association invite les Mondoriens à déposer aussi des fleurs en mémoire du gendarme tué lors des violences insurrectionnelles de mai 2024. Il est 11h48, la première pause de ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité institutionnelle avec la séance du Congrès.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Jouez au totem avec les marques calédoniennes. Découvrez cet objet mystère et remportez des bons d'achat. Les marques calédoniennes, c'est une sélection unique de marques locales comme Tricorier, Newcastle, Terre d'Origine et bien d'autres. Mode, souvenir, artisanat, rendez-vous aux 3 rues Anatole France en face d'Auchan, Quai Ferry.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Et pour la suite de ce journal, nous prenons la direction du Congrès où les élus sont réunis depuis 8h30 ce matin pour une séance publique technique. À l'ordre du jour, Lionel Sabot, un examen d'un projet de loi du pays et 4 projets de délibération.
Effectivement, Jean-François, la loi de pays d'abord, la loi de pays relative à l'exploitation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques en Nouvelle-Calédonie. Une loi qui a été adoptée à l'unanimité des élus dans la matinée qui va encadrer les relations contractuelles entre les distributeurs de films et les exploitants de Nouvelle-Calédonie. Cette loi va permettre de soumettre la concession des droits de représentation publique en Nouvelle-Calédonie d'une œuvre cinématographique au versement par l'exploitant de salles aux distributeurs d'une participation proportionnelle dont l'assiette est déterminée par le produit de la vente des entrées et dont le taux est librement débattu entre un pourcentage minimum qui est fixé à 20% et un pourcentage maximum fixé à 35%. Vous le voyez, c'est très technique. François Suvé, pour le groupe loyaliste, rapporteur spécial de cette proposition de loi du pays, a rappelé en séance que cette loi du pays n'avait pas pour vocation de créer un cadre juridique complet qui va structurer toute la filière de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur le territoire, mais qu'elle proposait une solution à une problématique à laquelle sont confrontés les exploitants de salles. Les débats ont été peu nombreux et cette loi de pays a donc été adoptée, je vous le rappelle, à l'unanimité des élus. Lors de cette séance, les conseillers du Congrès ont également adopté une délibération à maintenant la garantie d'emprunt de la Nouvelle-Calédonie accordée à la compagnie Air Calédonie dans le cadre d'un report d'échéance de remboursement d'emprunt, emprunt qui avait été contracté en 2016 pour le renouvellement de la flotte de la compagnie domestique. J'ajoute qu'en début de séance, les élus ont également acté une modification de la composition de la commission permanente, que l'on appelle aussi le petit congrès, au sein de la commission permanente pour le groupe uni. Louis Mapou remplace Ignès Coité. Il s'agit là d'un simple choix de groupe, a expliqué Jean-Pierre Diaoué, le chef du groupe uni en début de séance. Au congrès de la Nouvelle-Calédonie, boulevard Vauban, Lionel Sabot, RRB.
La Fédé réagit ce matin à l'accord cadre porté par Christopher Gigès et signé par les syndicats et le gouvernement après la conférence sociale et fiscale. La Fédé a décidé de ne pas signer cet accord et s'en est expliqué, Léo Fichou.
Steve Territeaou, secrétaire général du syndicat, félicite pourtant à la méthode mise en place par le gouvernement, mais explique que cet accord ferme les portes à toute option et rajoute que les salariés et les consommateurs ne doivent pas être des leviers d'ajustement. Je vous propose d'écouter Steve Territeaou.
Notre gros désaccord, c'est principalement le transfert des charges. Le gouvernement simule une augmentation du pouvoir d'achat et des revenus avec une restitution des cotisations salariales, mais au détriment d'une compensation sur la consommation. Donc pour nous, ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, parce qu'aujourd'hui, les seules propositions qui apparaissent dans ce projet d'accord, c'est le transfert des charges vers la consommation, c'est la baisse de l'IS au travers et compensée par la CCS, c'est toute une augmentation de la fiscalité indirect qui reste intolérable à nos yeux. Donc pour nous, c'était inacceptable de signer un document dans lequel on n'avait pas possibilité d'évoluer dans les propositions.
Après son refus de signer l'accord cadre, la Fédé a été évincée des discussions et des groupes de travail, mais le syndicat promet de rester force de proposition à l'image de son PR2S, plan de refondation sociale et solidaire. Steve Territeaou a présenté ce matin les propositions autour de plusieurs thèmes de son plan, coût du travail, bas salaire, pouvoir d'achat et réforme fiscale, mais aussi santé, enseignement, formation, insertion, habitat et transport. Un plan qui vise à lutter contre les inégalités.
Un nouveau plan qui venait contrecarrer un peu le PS2R du gouvernement, de façon à ce que les inégalités qui n'étaient pas prises en compte puissent enfin être prises en compte par un nouveau plan. Ben, notamment, on va parler de la plus grosse inégalité qui existe et qui perdure depuis plusieurs décennies, c'est l'inégalité fiscale. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite rétablir, c'est un meilleur partage des richesses, notamment au travers de la fiscalité. On veut diminuer la fiscalité indirecte sur la fiscalité directe.
La Fédé propose également la mise en place d'un observatoire des inégalités et de la pauvreté.
La plateforme Sudpro, mise en place par la province Sud pour les patentés et les très petites entreprises, est un succès. La province indique que 7000 entreprises se sont déjà inscrites pour bénéficier du dispositif. Et face à ce succès, la présidente de la province Sud, Sonia Baquès, a annoncé une enveloppe supplémentaire de 200 millions de francs, ce qui porte la dotation globale à 1 milliard 200 millions. 600 millions ont déjà été consommés via la plateforme. Bientôt, de la viande et des pommes de terre calédoniennes en vente en Polynésie française. C'est en tout cas un projet qui pourrait se concrétiser d'ici la fin de l'année. Une délégation de professionnels du secteur conduite par le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, Jean-Christophe Niotou, rentre de Polynésie après avoir organisé notamment une dégustation de viande bovine, porcine, de cerf et de pommes de terre. Le marché polynésien est une opportunité pour les éleveurs calédoniens alors que la production actuelle de viande est supérieure à la consommation, a rappelé Jean-Christophe Niotou qui était ce matin notre invité.
Nous avons un facteur conjoncturel qui avait déjà commencé avant 2024 mais qui s'est accéléré avec les émeutes et la situation catastrophique que vit le territoire depuis 2024, avec une population d'une part qui a perdu du pouvoir d'achat et une partie de la population qui a quitté le territoire. Donc du coup on a aujourd'hui des élevages calédoniens, notamment de porcs et de veaux qui sont en capacité à produire plus que le marché calédonien peut absorber. C'est le cas aussi des pommes de terre et c'est le cas aussi des cerfs. Donc il y a deux options aujourd'hui. Soit on dit à ces professionnels de produire moins, et auquel cas on fragilise des exploitations qui peuvent être amenées à disparaître. Et lorsque l'économie repartira, que les consommateurs reprendront leur consommation, on aura une situation, on n'aura plus la capacité à produire, on devra importer encore plus. Ou bien on trouve d'autres solutions. Et l'une des solutions, c'est potentiellement l'exportation.
L'exportation vers la Polynésie est donc une réelle opportunité. Elle correspond aussi à un besoin de nos voisins et pourrait aboutir à des échanges dans les deux sens.
La Polynésie importe 98% de sa consommation de viande bovine. et 75% de sa consommation de viande de porc. Et il n'y a pas du tout de production de cerfs sur place. Donc on a un boulevard aujourd'hui en termes de possibilités en volume. Nous sommes confrontés quand même à une concurrence internationale sur lesquelles, en termes de prix, il est très difficile de lutter. Pour autant, on a la capacité, effectivement, à proposer des produits, d'une part, des frères du Pacifique, mais aussi des produits de meilleure qualité, puisque nos bovins sont nourris à l'herbe, ce qui n'est pas le cas du bovin de Nouvelle-Zélande, par exemple. Donc, du coup, on a des avantages concurrentiels à mettre en avant. Et puis, en contrepartie, nous avons la capacité donc de voir avec la Polynésie pour nous accompagner sur d'autres sujets puisqu'ils sont très très en avance sur l'agrotransformation, c'est-à-dire la capacité à transformer des produits qui arrivent en masse sur le marché, qui n'ont pas la capacité d'être absorbés par les consommateurs en frais. Et là-bas, en Polynésie, nous avons visité des ateliers de transformation de petite, de moyenne et de grande taille qui ont été fortement poussés par la collectivité parce qu'il faut notamment nourrir les cantines scolaires.
La mission calédonienne a également rencontré les importateurs, les distributeurs, la restauration et les institutions locales. Jean-Christophe Niotou espère la mise en place des premières exportations de viande et pommes de terre calédoniennes vers la Polynésie d'ici la fin de l'année. Une autre mission de ce type devrait avoir lieu en juillet prochain à Wallis et Futuna. Les trois territoires français du Pacifique représentent un marché de 550 000 consommateurs. Avant une nouvelle pause, en bref, notez que le salon des métiers d'art spécial Fête des Mères s'est ouvert ce matin pour 4 jours à la Maison des Artisans à Nouville. La Fête des Mères aura lieu le dimanche 25 mai prochain. Les visiteurs découvriront sur place plus de 50 artisans, membres de l'AMAC, l'association Les Métiers d'Art Calédoniens, qui présentent leurs créations locales. Il est ouvert aujourd'hui, demain et samedi de 9h à 17h et dimanche de 9h à midi. 11h57, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole, dans le monde et le sport.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Dimanche 25 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Pizza & Pasta au 24 30 70. Retrouvez les suggestions spéciales fête des mères sur la page Facebook Pizza & Pasta.
Envie de vivre l'aventure en Subaru sans que votre banquier se fasse harakiri ?
Jusqu'au 24 mai, ce sont les jours Banzai chez Subaru. Jusqu'à 500 000 francs de remise sur l'achat d'un Subaru Forester, Outback ou Crosstrek. Pour profiter de cette attaque éclair sur les prix, foncez tel un ninja chez Subaru au village automobile PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné.
Banzai ! Offre valable du 7 avril au 24 mai 2025 dans la limite des stocks disponibles et remises pouvant aller jusqu'à 500 000 francs selon les modèles, voire conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité en métropole, et c'est ce week-end que les adhérents LR doivent élire leur président. Il s'agira de départager Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, qui ont tous les deux été reçus par nos confrères d'Europe 1 dans deux émissions différentes. Parmi leurs points de divergence, la participation au gouvernement. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Interrogé par Sonia Mabrouk, Bruno Retailleau défend son choix de rester ministre tout en prenant ses distances avec Emmanuel Macron.
Je suis gaulliste, mais je ne suis toujours pas macroniste. J'ai des vraies différences avec le président de la République, par exemple sur l'immigration.
Et le ministre de l'Intérieur d'assurer qu'il n'est pas tenu par une quelconque solidarité gouvernementale.
Je ne faisais pas partie de la majorité présidentielle. Je n'en fais pas plus partie. Nous sommes un gouvernement de mission et nous avons décidé, nous la droite, de rentrer pour éviter le pire.
Une décision qui constitue un angle d'attaque pour son concurrent à la présidence des Républicains.
L'erreur mortifère pour la droite, c'est d'être la béquille de ce macronisme finissant.
Laurent Wauquiez, invité de Pascal Praud, estime que le prochain président des Républicains ne peut pas être membre du gouvernement.
Ça nous conduit petit à petit à l'effacement dans le macronisme. On nous dira, d'ici 2 ans, le président de votre parti a été dans un gouvernement avec des macronistes de gauche. Tout naturellement, maintenant, vous êtes fusionné dans la Macronie. Le choix qu'on a à faire, en réalité, ce n'est pas un choix entre deux personnalités, c'est deux visions de l'avenir de la droite.
Deux visions entre lesquelles les militants LR devront trancher ce week-end. Résultat attendu dimanche soir à 19h.
Toujours en métropole, François Bayrou s'est montré très offensif devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire. Le Premier ministre est accusé notamment par la France Insoumise d'avoir eu connaissance de soupçons d'agression et violences sexuelles dans un établissement scolaire du Béarn. Il s'est défendu devant la commission d'enquête, estimant qu'il n'était pas au courant et il a mis en cause l'attitude de la France Insoumise. Les députés qui ont repris l'examen du texte sur la fin de vie et celui sur les soins palliatifs. Dans son émission télévisée, hier, le président de la République avait évoqué l'idée d'un référendum sur la fin de vie si les débats devaient s'enliser. Proposition qui suscite une opposition quasi générale sur les bancs de l'Assemblée. Écoutez la députée Renaissance Anne Vidal. Elle était rapporteure du premier texte sur les soins palliatifs.
On n'a aucune certitude sur le vote de ce texte. Mais on ne peut pas contourner le Parlement en disant « on n'est pas sûr du vote et donc on fait appel aux Français ». Non, c'est vraiment presque méprisant pour les parlementaires.
La députée Renaissance Anne Vidal. Deux agents de la pénitentiaire trouvaient la mort il y a un an jour pour jour lors de l'attaque du fourgon qui transportait Mohamed Amrah. Les noms d'Arnaud Garcia et Fabrice Moello figurent désormais sur une stèle dressée près du lieu de l'attaque au péage d'Inkerville dans l'Aire. Elle a été inaugurée la nuit dernière pour nous. Et puis un mot de l'actualité à l'étranger. On ne sait toujours pas qui sera présent autour de la table des négociations pour trouver un cessez-le-feu en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il se rendrait personnellement à Istanbul, qui doit accueillir les délégations. Il souhaite la présence du président américain Donald Trump, qui conditionne lui sa venue à celle de Vladimir Poutine. Mais le président russe n'a pour l'instant pas fait part de ses intentions. On va refermer ce journal par l'actualité sportive et d'abord du cyclisme avec la cinquième étape du Giro. La nuit dernière pour nous, étape remportée Léo Fichu par Mats Pedersen.
Il a devancé à la photo finish l'Italien Eduardo Zambanini. Tom Pidcock complète le podium. C'est déjà la troisième victoire d'étape du Danois sur cette édition du Tour d'Italie. Il conserve son maillot rose de leader et possède désormais 17 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Le premier français Romain Bardet est 21e à 1 minute 10 du leader. Ce soir, sixième étape de plat, 227 km favorable à une arrivée au sprint.
Et puis un mot de tennis avec cette surprise en quart de finale du Masters 1000 de Rome.
Oui, Alexander Zverev, numéro 2 mondial, s'est incliné en 2-7 contre Lorenzo Muzzetti. En demi-finale, l'Italien affrontera Carlos Alcaraz, vainqueur de Jack Draper. Dans l'autre partie du tableau, Jannik Sinner, numéro 1 mondial, de retour après une suspension de 3 mois pour dopage, sera opposé à Casper Ruud. C'est un quart de finale. Tommy Paul défiera Hubert Urquaz. On notera que la paire française Sadio Doumbia et Fabien Reboul sont qualifiés pour le double en quart de finale.
Merci Léo, il est midi et 2 minutes.